Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour assister à cette conférence. Et j'espère que vous avez révisé, puisque vous pouviez réviser. Je vous rappelle que vous pouviez écouter en libre accès la précédente conférence qui était consacrée à la vigne et au raisin, qui prépare celle-ci, donc le sang du sacrifice. Donc je ne doute pas que vous ayez bien révisé le précédent sujet, qui était un amuse-bouche. C'était juste pour introduire le sujet beaucoup plus sérieux d'aujourd'hui. Le sang du sacrifice, vous allez souffrir. Aujourd'hui, vous allez souffrir. Alors le sang, avec l'eau, c'est le liquide fécond par excellence. Il est comparé à la sève, il est comparé au lait, il est comparé au sperme. Et dans le Coran, l'homme est formé de sang coagulé. C'est la sourate 96 qui le dit. Genghis Khan serait né un caillot de sang à la main. Selon un mythe acadien, ce qui nous situe en Mésopotamie sous l'Antiquité, c'est un mélange d'argile et de sang divin qui va donner naissance au premier homme. Dans la mythologie grecque, Aphrodite, les Érinies, les géants, les nymphes sont engendrés à partir du sang d'Ouranos, le ciel. Pégase, lui, à partir de du sang de la Méduse qui était mortelle, c'est-à-dire dont le cou a été tranché par Persée. Et le sang, qui est un principe de vie, est souvent associé, ou même carrément confondu, avec l'âme. Car le sang, c'est l'âme, c'est le Deutéronome qui le dit, donc un texte de l'Ancien Testament, chapitre 12, verset 23. Et dans la tradition chinoise, l'âme est double, le sang avec le souffle sont les constituants de l'âme. Dans la mythologie chinoise ou la tradition chinoise, sang et souffle sont également liés chez les Bambara, donc en Afrique, ou chez les Mongols, ce qui nous renverrait à Genghis Khan. Alors on va, rassurez-vous quand même, commencer par un petit rappel de ce que nous avions dit la fois précédente. Ce que nous savons déjà, ce que l'on sait, c'est que la vigne et le raisin sont éminemment sacrés. Ils s'impliquent dans beaucoup de rituels depuis toujours par rapport aux autres libations, c'est-à-dire libations d'eau, de miel, d'huile, de lait. Les libations de vin sont les plus récentes. Sous l'Antiquité, le vin coule lors des sacrifices et des cérémonies religieuses. On insiste sur le sacrifice et le rapport, bien sûr, entre le vin et le sang. Et le vin est ainsi répandu sur la terre, sur la mer, sur une flamme propice, donc la flamme de l'autel, par exemple, ou sur la tête de l'animal qui est destiné au sacrifice. On pense bien sûr à la vache blanche de Didon, après quoi Didon fonde Carthage. Encore faut-il que les mains soient lavées. Encore faut-il que ce vin soit pur et réponde à des critères bien précis de qualité. C'est ce que précise Pline pour l'Antiquité. Et on va le citer aussitôt. Il nous explique ceci. Pour l'Italie, je remarquerai qu'il est défendu de faire des libations aux dieux, non seulement avec le vin provenant d'une vigne non taillée, c'est un précepte de Numa Pompilius, ou frappé de la foudre, ou auprès de laquelle un homme mort par la corde est resté suspendu, mais encore avec les vins foulés par des pieds blessés, avec ceux qui ont été exprimés du marque taillé, avec ceux qui ont été souillés par quelque immondice, tombés dans l'eau. Les vins grecs sont également exclus, nous dit Pline, parce qu'ils contiennent de l'eau. Ce que nous avions dit la fois précédente. D'ailleurs, reposons la question, pourquoi les vins grecs contiennent-ils de l'eau? Et c'est Diodore qui va nous répondre, Diodore de Sicile, l'auteur grec, qui va nous répondre et qui nous dit ceci. comme la découverte du vin est un grand bienfait pour les hommes, non seulement à cause du plaisir qu'il leur procure, mais aussi parce que l'usage du vin fortifie le corps, on invoque le bon génie lorsque, pendant les repas, on donne à tous les convives du vin pur. Mais lorsqu'après le repas, on leur donne du vin mêlé d'eau, on invoque Zeus Sauveur. Le vin pur rend l'homme furieux, mais quand il est tempéré par la pluie de Zeus, il ne leur procure que du plaisir, en corrigeant le principe maniaque et corrupteur. C'est ce que dit Diodore de Sicile. Et il s'agit là d'ailleurs d'une tradition béotienne. Il semble qu'à Athènes, l'usage ait été légèrement différent. On saluait le bon démon, Agathos démon, méfiez-vous, le terme de démon n'est pas du tout conçu sous l'Antiquité grecque comme les chrétiens le concevront plus tard, hein. Le démon est un génie en fait, et un bon génie, souvent Agathos démon c'est le cas, et donc on saluait à Athènes comme cela, Agathos démon, c'est-à-dire on le salue avec du vin pur à la fin du repas, et à Zeus sauveur, plus précisément Zeus sauter, quand les invités se préparer à partir, on saluait effectivement Zeus Sauveur par du vin, par une libation de vin. Et toutefois, si Zeus est invoqué, puis on le voit avec différents exemples, il est invoqué à l'occasion de libation de vin, c'est bien sûr à Dionysos que revient le vin. Nous l'avions vu la fois précédente et nous sommes toujours un peu dans le cadre d'un rappel du sujet précédent, hein. Et remarquez par exemple que c'est en voyant un serpent mordre dans une grappe de raisin sauvage que Dionysos découvre la vigne, après quoi il enseigne aux hommes l'art de la vendange. Mais selon une autre version, après la mort d'Empélos, Empélos était l'amant, le jeune amant d'Apollon, vous avez des représentations d'Empélos ou Empélus sur la projection, Dionysos verse de l'ambroisie sur sa blessure, sur la blessure d'Empélos, et la résurrection de l'adolescent donne naissance à la vigne parfumée. Et on le voit à travers ces deux mythes, qui sont deux variantes, mais qui redonnent bien sûr légitimement le vin à Dionysos. Le vin est une image du sang, et une image du sang du sacrifice. Hein. Quand on a cette image très forte du serpent qui mord une grappe de raisin sauvage, c'est une image bien sûr de la mort, et de la résurrection, et aussi du sacrifice. Mais là, avec la figure d'Empélos, c'est encore plus frappant, puisque l'adolescent ressuscite et donne naissance à la vigne parfumée. Parce que Dionysos a versé de l'ambroisie sur sa blessure. Alors on va rester sur Dionysos, bien sûr, donc on va rester du côté de Dionysos, et précisons alors effectivement qu'on va surtout s'intéresser à la vision que les orphiques ont donnée de Dionysos. Les orphiques, ce sont des sectaires. Ce sont des sectaires qui ont été persécutés par les Grecs, orthodoxes. L'orthodoxie grecque, c'est quoi sous l'Antiquité? C'est donc la religion grecque qui se fonde sur Hésiode, 8e siècle avant notre ère, ou sur Homère. Donc ça, c'est l'orthodoxie des Grecs. C'est les Grecs orthodoxes de l'Antiquité. C'est-à-dire ceux qui sacrifient des animaux. Donc à la suite du sacrifice, ils peuvent manger les viandes sacrifiées de l'animal sacrifié. Les viandes sont cuites, selon un protocole bien sûr extrêmement déterminé, mais donc sous l'Antiquité, on ne mange pas de viande si celle-ci n'a pas été sacrifiée auparavant. Donc c'est l'animal qui est sacrifié. Alors les orphiques, non, ils rejettent tout à fait cela. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été vus comme des sectaires et persécutés par les Grecs. Donc là, c'est le point de vue des orphiques qui nous intéresse. Et ces derniers, donc c'est 6e siècle avant notre ère, donc les orphiques, 6e siècle avant notre ère. Pythagore, par exemple, il n'en fait peut-être pas partie, Pythagore, des orphiques, mais il est très très proche des orphiques, de la pensée orphique. Et les orphiques, quoi qu'il en soit, ils considéraient Dionysos comme le fruit pollué de l'union de Zeus avec sa fille Perséphone. Autrement dit, un inceste qui fait qu'Héra, Héra c'est l'épouse légitime de Zeus, est une nouvelle fois trompée. Dionysos se retrouve persécuté par la jalousie de l'épouse légitime, c'est-à-dire Héra. Héra ne supporte pas cette liaison entre son époux et sa fille, c'est-à-dire Perséphone, enfin la fille de Zeus. Elle est la fille de Zeus, elle n'est pas la fille de Héra. Héra encourage les titans, c'est-à-dire les ennemis de toujours. Les titans, ce sont les ennemis des Olympiens. Et elle encourage les titans à supprimer la preuve vivante de l'infidélité de Zeus. Comprenez bien le petit Dionysos, ou le premier Dionysos. Son coin ne comprendrait pas son nom, Dionysos. Bon. Les titans s'exécutent, puisque l'ordre a été vient carrément de Héra. C'est-à-dire que les titans détournent l'attention, l'esprit si vous préférez, du jeune Dionysos, et ces titans couverts de gypse vont attirer le petit Dionysos, qui est petit, c'est un enfant, ils vont l'attirer en lui proposant des jouets. Ce sont des poupées articulées, ce sont des rhombes, des toupies, des osselets ou encore des miroirs. Et profitant de son étonnement, un étonnement d'enfant si vous voulez, il le frappe. Il le frappe, il le découpe et le livre à une étrange cuisine, puisque les membres du petit Dionysos sont jetés dans un chaudron, mis à bouillir, après quoi les titans les enfilent sur des broches pour les faire griller. Curieux d'ailleurs, cuit sur des broches. Bon. Et quoi qu'il en soit, les titans se repaissent des morceaux du corps du jeune dieu, à l'exception du cœur. À l'exception du cœur. Athéna s'est empressée de recueillir le cœur. Elle a sauvé ce cœur. Et le cœur est inhumé dans le sanctuaire apollinien de Delphes. Autour de ce cœur, Apollon rassemble les membres éparses de son frère. Et il va, son frère c'est bien sûr Dionysos, et il va redonner ainsi vie à l'enfant dieu sacrifié et rené. Il s'appelle Dionysos, donc deux fois né. On retrouve la métaphore théologique de la dispersion du principe divin, de son démembrement et de sa réunification dans son intégrité originelle. Ça fait écho, bien sûr, à Osiris. C'est exactement ce qui est arrivé à Osiris. Prévenu, Zeus foudroie les déicides. Les déicides, ce sont les titans. Ils ont tué le petit Dionysos. Il les foudroie, mais on apprend maintenant que l'humanité naît ou naîtra de la suie déposée par les vapeurs exhalées des meurtriers, c'est-à-dire les titans, encore gorgés des chairs de l'enfant Dieu. L'homme est né de cela. Des cendres, des titans foudroyés par Zeus, si on veut faire simple. Donc la race humaine procède doublement de l'immortalité. L'immortalité coupable des titans, l'immortalité victime de Dionysos, qui a été effectivement cuisiné et dévoré par les titans. Alors, on le voit à la théogonie d'Hésiode, qui représente l'orthodoxie, et dans laquelle vous ne trouverez pas ce mythe, vous le trouvez chez Olympiodore de Thèbes, je vous ai mis la référence sur la projection. À la théogonie d'Hésiode, les orphiques opposaient l'idée d'un brutal déchirement d'une plénitude divine. C'est-à-dire que Dionysos représente cette plénitude divine, mais il a été démembré, son corps dispersé ou déchiré, et c'est effectivement une idée à laquelle les orphiques étaient très attachés, brutal d'ailleurs, déchirement. Un déchirement qui est parfaitement illustré par ce mythe du Dionysos démembré, un mythe à l'origine de l'humanité. Pour plus de précision, vous pouvez le lire chez Olympiodore de Thèbes, commentaire sur le Phédon. Oublier ce déchirement, pour un orphique de l'Antiquité, oublier ce déchirement, le réactiver en sacrifiant dans le sang, ce que faisaient les Grecs orthodoxes, c'était expliqué dans la mythologie d'Hésiode ou celle d'Homère, ou justifié par la mythologie d'Homère et d'Hésiode. On doit sacrifier effectivement l'animal et manger donc les chairs de l'animal sacrifié. Les chairs sont cuites bien sûr. Mais c'est effectivement pour les orphiques oublier le déchirement qui a eu lieu à l'origine. Et alors c'est pour les orphiques carrément reproduire l'acte qui donne naissance aux hommes. D'essence titanique. C'est insupportable pour les orphiques, effectivement, de savoir qu'il y a cette part titanique dans l'homme, si vous voulez, et que l'homme continue à sacrifier l'animal et à se repaître des chairs de l'animal sacrifié, c'est finalement réactivé et réactivé encore ce mythe d'origine. Les orphiques ne le voulaient pas, hein, donc ils ont rompu totalement avec ça. Toutefois, perpétré sur un dieu, Dionysos est un dieu, le crime titanique ne peut pas détruire l'immortalité. Dionysos est immortel. Donc par contre, ce crime va égrener la divinité. Hein, donc l'égrener, c'est-à-dire disperser la divinité en autant d'âmes. Ce sont les âmes des hommes, si vous voulez, hein. Chaque âme correspond à une part de la divinité, c'est-à-dire le corps démembré de Dionysos. Le corps, du même coup, le corps matériel et physique de l'homme est donc une prison pour l'âme. L'âme de la divinité a été dispersée, égrenée à cause de ce crime des titans à l'origine. L'âme est dans le corps de l'homme, le corps est une prison pour l'âme. Ça, c'est une idée pythagoricienne à ce propos. Vous voyez comme quoi l'orphisme et le pythagorisme peuvent se recouper. Et bien sûr, effectivement, donc l'homme est chargé d'expier la souillure titanique. C'est-à-dire que pour les orphiques, il faut pratiquer des choses concrètes de façon à purger cette faute des titans, mais qui retombe automatiquement sur l'homme, puisque l'homme est constitué d'une part titanique. Donc les orphiques étaient soucieux d'expier la souillure titanique. Et pour se libérer de cela, pour se libérer des fers de sa prison, la prison c'est le corps, et ainsi vaincre la mort, l'âme devra suivre scrupuleusement les préceptes du genre de vie orphique qui se décline en autant d'interdits, interdit de faire couler le sang et de manger carné, interdit de consommer des fèves. On le verra le 3 mai, hein, ça sera la conférence du 3 mai 2019. Interdit d'inhumer un mort dans un linceul de laine, on le fait dans du lin, qui est une fibre végétale. Interdit de recourir au suicide, autant d'interdits que si on les respecte, on peut espérer se libérer de sa prison, c'est-à-dire du corps donc qui enferme l'âme. Bon. S'abstenir de meurtre, hein, c'est ce qui va résumer finalement tous les interdits que je viens d'évoquer à l'instant. Précepte qui condense en fait l'ensemble des interdits. S'abstenir de meurtre, hein, c'est refuser de reproduire l'acte de dispersion de la plénitude divine. Et ça revient aussi à tourner le dos à la piété civique. La piété civique, c'est quoi? C'est la piété dans les villes grecques comme Athènes par exemple, Athènes n'est qu'un exemple, où l'on pratique une orthodoxie grecque, la religion grecque de l'Antiquité est orthodoxe, tant qu'elle repose sur le mythe donc d'Hésiode ou encore d'Homère. Hein. Et effectivement, elle impose cette religion grecque de sacrifier l'animal, de manger les chairs donc de l'animal sacrifié, chairs bien sûr qui seront cuisinées, qui seront cuites. Le sacrifice sanglant, c'est le ciment traditionnel de la cohésion civique chez les Grecs de l'Antiquité. La ville et la communauté reposent sur ce sacrifice sanglant. Les orphiques n'en voulaient pas, pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est la raison pour laquelle les orphiques ont été persécutés, terriblement, hein. Ils ont été en fait éradiqués, hein, carrément, hein. Donc persécutés en Grèce, ils ont trouvé un refuge pour certains d'eux en Grande Grèce, exilés là-bas, comme d'ailleurs à ce propos Pythagore. Pythagore s'est retrouvé exilé en Grande Grèce. Alors, les satyres, les compagnons privilégiés de Dionysos, les satyres extraient le précieux sang de la vigne. Il s'agit des grappes pressées, déchirées, démembrées. Elles subissent leur passion, ces grappes, hein, et elles connaissent, selon la formule consacrée depuis l'Antiquité, la mort du pressoir. les grappes connaissent la mort du pressoir, à l'image du Dionysos orphique, c'est-à-dire l'enfant Dieu qui a été déchiré, démembré par les titans et qui a subi la passion et la mort du bouilli rôti dans le chaudron. Je le disais tout à l'heure, étrange cuisine qu'ont réalisé les titans, ils ont d'abord fait bouillir les membres du corps de Dionysos pour les faire rôtir ensuite. C'est grotesque, c'est pas une bonne cuisine. C'est une aversion, si vous voulez. Il y a une aversion, là. Il y a quelque chose qui va pas, là, dans cette cuisine des titans, là. Mais qui est révélateur, bien sûr, pour un structuraliste, c'est tout à fait révélateur. Donc, le liquide qui s'échappe de l'outre, c'est le sang de l'enfant Dieu René, c'est-à-dire Dionysos. Le jus de la vigne purifiée et métamorphosée en vin, ce jus, c'est le sang de l'enfant Dieu René. C'est l'image du Dionysos votris, c'est-à-dire le Dionysos grappe, celui qui meurt dispersé et se rassemble en un nouveau corps pour renaître. Ce corps, c'est le vin, tout simplement. Et cette image du Dionysos votris, elle existe bien, vous l'avez ici, par exemple, restituée par les Romains, mais elle existait aussi chez les Grecs. Seulement, on n'en a pas d'exemple chez les Grecs de l'Antiquité. Donc, effectivement, c'est un corps nouveau. C'est un corps nouveau qui s'est reconstitué après le drame ou la tragédie qu'on a évoquée, un corps nouveau qui dispense aux hommes une liqueur d'immortalité. L'ambroisie, c'est le nectar, c'est effectivement le trésor qui se cachait dans le cantar de la Casnée Firaoun, à Petra par exemple. Donc effectivement, cette urne monumentale au-dessus de la Casnée, donc on croyait qu'elle contenait un trésor, elle contient un trésor, c'est justement la liqueur d'immortalité de Dionysos. Le vin de Dionysos que se partage la tête couronnée, les participants au symposium, donc ce vin de Dionysos est absolument fondamental au cours du banquet. Ça aussi c'est un rappel, je vous l'avais expliqué la fois précédente. Donc dans ce cas, ces participants, tête couronnée au symposium, sont les commensaux. Ce sont les commensaux des dieux. Le banquet a toujours, donc un aspect rituel, se rapporte donc aux dieux. Je vous rappelle, le cortège des buveurs, komos en grec, ça se dit komos en grec. Vous trouvez en latin commensualis, littéralement le compagnon de table, c'est-à-dire le commensal de com et de mensa, la table. Mais dans compagnon, vous retrouvez bien sûr la racine com. Tout ça, on l'avait dit la fois précédente. En buvant à cette source de rajeunissement, puisque nous parlons de liqueur d'immortalité, donc parfaite béatitude aussi, c'est un nectar, cette l'ambroisie, en puisant dans le cratère dans lequel on verse le vin depuis l'outre pour le mélanger à l'eau, et cela avec mesure. Les participants au symposium, les commensaux si vous voulez, s'abreuvent à la source de vie éternelle qui représente représente l'outre. L'outre, c'est l'image du pressoir mystique, c'est-à-dire un symbole de mort, mais aussi et surtout de renaissance. Et cette image ne manquera pas de passer au christianisme, comme on va le voir aussitôt. Donc effectivement, il y a une continuité entre cette image très forte du Dionysos Botris que l'on vient de voir à l'instant, et surtout tout le symbolisme qui enveloppe le Dionysos Botris, et puis effectivement cette image-là. Et surtout, encore une fois, insistons sur le vin, liqueur d'immortalité, dans le sang de la divinité sacrifiée, c'est ce qui permet effectivement d'espérer une renaissance, une résurrection, si vous préférez. Alors oui, donc c'est une image finalement qui a été véhiculée de longue date, qui est encore véhiculée, notamment par le christianisme, et dans le cadre du christianisme, cette image du pressoir mystique est effectivement très forte, mais il faut aussitôt rappeler qu'elle s'ancre au plus profond de l'imaginaire des hommes, qu'on n'a pas attendu les chrétiens, on n'a pas non plus attendu les orphiques, les grecs, pour voir se développer cette image. Les Égyptiens, eux de leur côté, n'ont pas manqué de l'illustrer, et cela beaucoup plus tôt encore que les Grecs. Ils avaient déjà développé cette image. Effectivement, vous l'aurez compris, à travers l'histoire d'Osiris, il y a un parallèle frappant entre l'histoire d'Osiris et celle de Dionysos. Bon, en dehors peut-être du banquet cannibale. Donc les titans ont effectivement dévoré le corps de Dionysos, c'est pas le cas pour le corps d'Osiris, il est démembré mais il n'est pas mangé. Bon, donc là c'est une différence. Bon. Alors c'est Plutarque, historien et moraliste grec, qui a vécu de 46 à 120 de notre ère environ, qui rapporte le mieux ce récit du roi bienfaisant, c'est-à-dire Osiris. Osiris rend son frère Seth fou de jalousie, si bien que Seth complote pour le faire disparaître au cours d'un banquet. Il y a toujours cette idée du banquet quand même. Ça ne sera pas un banquet cannibale, mais il y a un banquet quand même. Bon. Donc au cours d'un banquet, Seth fait apporter un coffre dans lequel il réussit à enfermer Osiris. Pour les détails, vous relirez plus tard. Et Seth jette dans le fleuve le coffre en question. Mais après avoir atteint la mer, le coffre est rejeté par les vagues à Byblos. Isis recherche son corps, puis tente de le cacher, le corps de son époux Osiris. Mais malheureusement pour Isis, Typhon, qui n'est qu'une autre forme de Seth, c'est Seth en fait Typhon retrouve le cadavre, et c'est à ce moment qu'il le dépèce et va le disperser en petits morceaux, a priori 14 morceaux. Bon. La déesse Isis parcourt alors l'Égypte pour reconstituer le corps de son époux bien-aimé, qui a pu ainsi revivre. On en revient à cette image de la Renaissance ou de la résurrection. Pourquoi trouvez-vous des représentations de vignes dans les tombes des défunts égyptiens, sinon pour donner l'espoir de la survie ou carrément de la Renaissance? Carrément, hein. Donc on voit que ce sont des idées qui sont véhiculées depuis très très longtemps, sur la base de quoi? De dieux, de personnages mythiques qui meurent dans des conditions atroces, qui souffrent ou qui vivent une passion et qui ressuscitent, qui renaissent, que ce soit Osiris, Dionysos ou le Christ. Bon. Alors, la vigne est par excellence le symbole du renouveau et donc de la vie qui renaît. Par conséquent, ne soyez pas surpris de la retrouver dans le décor des tombes égyptiennes, comme vous le voyez ici, dans ce caveau la tombe de Sénéfer, et c'est le plafond, bien sûr, qui est entièrement recouvert d'une tonnelle de vigne. Pas seulement comme un des éléments illustrant la vie quotidienne, c'est-à-dire les travaux, les saisons, si vous voulez, donc la vendange, pour être donc plus précis, et on sait que les Égyptiens étaient soucieux. Enfin, ils imaginaient que les travaux quotidiens se continuaient dans l'au-delà, que la vie dans l'au-delà était une vie qui était comparable à la vie sur Terre, avec des travaux, et notamment les travaux de la vigne, pourquoi pas. Bon, non, c'est pas seulement cela, c'est aussi cela, mais pas seulement cela, c'est pas seulement l'allusion à une vie quotidienne qui se reporte dans l'au-delà, non, c'est aussi et surtout le symbole même d'Osiris, la vigne que vous avez ici, elle est le témoin de la résurrection d'Osiris. Et donc dans les tombes égyptiennes, en effet, on voit beaucoup, beaucoup de scènes de vendange, qui, je le redis, donc font écho bien sûr à ces travaux qui continuent dans l'au-delà, donc les travaux des saisons, la vendange dans l'au-delà, mais c'est aussi et surtout une image de la résurrection. Insistons, Osiris, dieu de l'au-delà, garant de la résurrection humaine, puisqu'il est mort et il a ressuscité, est aussi le dieu de la vigne. Osiris chez les Grecs est le dieu Osiris chez les Égyptiens est le dieu de la vigne, au même titre que Dionysos chez les Grecs. Et on trouve dans les tombes égyptiennes quantité de scènes de vendange comme celles que vous avez sous les yeux. Et pour les Égyptiens, la couleur rouge du vin évoque le sang et la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce cantare qui décidément contient ce breuvage d'immortalité qui n'est autre que le vin, comprenez, le sang d'éternité ou d'immortalité, le sang de Dionysos. Ici, c'est le sang d'Osiris, c'est la même chose en fait. Et par ailleurs, le vin amène à une ivresse. Le vin amène à une ivresse. Mais cette ivresse, dans un cadre qui est mythique, ou alors on pourrait dire aussi mystique, est toujours assimilée à une possession. Ça tombe bien, Dionysos est un dieu de la possession. Donc c'est un dieu qui possède. Et effectivement, le vin, ou plutôt l'ivresse, c'est une image de la possession et c'est perçu comme un outil d'initiation et de communication avec les dieux. Donc l'ivresse n'est pas forcément quelque chose de néfaste, au contraire, c'est quelque chose qui permettra la communication avec la divinité, ce qui nous ramène à Dionysos. Ça nous ramène à Dionysos. Alors Pinthée, roi de Thèbes, Pinthée, dont vous avez ici une phrase qui sera très lourde de conséquences, dans les Bacchantes d'Euripide, une des plus belles tragédies de l'Antiquité, dont il dit à propos des fêtes de Dionysos, comment souffrir ces orgies où le vin fait perdre aux femmes la raison. Il ne faut jamais oublier que Dionysos est entièrement du côté des femmes, que les rituels dionysiaques étaient effectivement consacrés aux femmes. Bon, et Pinthée n'en veut pas. Pinthée, lui, il est entièrement du côté de la cité, ordonné, et il ne veut pas de ces orgies qui fait perdre aux femmes la raison. Oui, mais, bon, on connaît effectivement l'histoire, de Pinthée dans les Bacchantes d'Euripide. Pinthée, c'est donc le roi de Thèbes, il s'oppose catégoriquement au culte dionysiaque dans son royaume. Donc il ferme les portes au dieu. Mais c'est un dieu, donc le dieu se venge. Il va se venger d'une terrible manière, alors qu'il se cache Pinthée dans un arbre du mont Citéron pour épier ce qu'il n'a pas le droit de voir, c'est-à-dire la bacchanale. La bacchanale, c'est strictement réservé aux femmes, donc selon l'Antiquité. Ce sont les femmes qui pratiquent les bacchanales. Bon, mais il veut voir Pinthée. Il interdit, mais il veut voir quand même. Donc c'est Bacchante. Il veut les voir. Bon, donc il se cache dans cet arbre du mont Citéron pour épier la bacchanale, et il est découvert. Il est découvert par les Bacchantes. Bon. Découvert par les Bacchantes, il est aussitôt mis en pièces par ces dernières, les Ménades, qui vont le dépecer, qui vont le déchirer, qui vont le découper en morceaux, si bien que sa tête sera coupée, et elle sera rapportée en trophée à Thèbes, mais par qui ? Par les Ménades, par les Bacchantes, c'est-à-dire les femmes de la cité de Pinthée, donc la cité de Thèbes. Donc qui sont ces femmes à ce propos? À la tête de ces femmes, sa propre mère, Agavé, la mère de Pinthée, le roi. Ses deux tantes, Ino et Autonoé, ce sont elles en priorité qui vont dépecer le corps de Pinthée, le déchirer et ramener sa tête coupée dans la ville de Thèbes. C'est le sujet de la tragédie d'Euripide, les Bacchantes. Là aussi, il y a de leçons à tirer sur le fait d'interdire à un dieu son rituel dans une cité, par exemple, entre autres leçons. Il y a des leçons plus graves, bien sûr, à tirer de ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors, les Bacchantes, si vous préférez, pratiquaient ce qu'on appelle le diasporagmos. Le diasporagmos consistait à chasser un petit animal. C'est ce que l'on voit ici, deux Ménades qui ont chassé manifestement un lièvre, qu'elles tiennent ici, par la main, et qu'elles présentent à Dionysos. Dionysos au cantar, on voit qu'il a dans sa main droite un cantar. Donc ce rituel, chasser un petit animal, était réellement pratiqué par les femmes grecques de l'Antiquité, alors qu'elles sont enfermées dans leur gynécée au cours des Dionysies, donc des fêtes qui sont parfaitement bien inscrites dans le calendrier liturgique des Grecs de l'Antiquité, des Grecs orthodoxes. Les femmes de la cité sortaient de la ville, elles allaient effectivement dans la montagne, elles parcouraient la montagne pour chasser de petits animaux. Quand elles avaient chassé l'animal, comme ici, elles lacéraient la pauvre victime. Et aussitôt, le diasporagma, c'est-à-dire ce rituel qui consistait à chasser dans les montagnes l'animal, était suivi par l'homophagie. Qu'est-ce que l'homophagie ? C'est manger les chairs crues de l'animal qui a été chassé. Et c'est ainsi que les ménades dévoraient comme ça les chairs crues de l'animal qu'elles avaient chassé. Les chairs crues de l'animal. Hein. Le rituel est attesté, hein, par recoupement. Les historiens ont pu démontrer que diasporagmos et homophagie étaient pratiqués par les Grecs, les fameux Grecs de l'Antiquité, dans le cas des Dionysies. C'était la fête pour Dionysos. Hein. Et c'est même le point culminant de cette communion mystique. Communion. Vous retrouvez bien sûr la racine, comos. Communion mystique. Hein. C'est-à-dire, je m'explique autrement, l'orgie dionysiaque, celle qui a été condamnée par Pinté, celle qui a été malheureusement détournée par les chrétiens. Les chrétiens ont voulu la diaboliser. Donc les chrétiens en ont changé le sens, hein, si bien que l'idée qu'on se fait des orgies dionysiaques n'est pas du tout conforme à la réalité sous l'Antiquité. Les orgies dionysiaques, c'est quoi ? C'est ça, c'est le diasporagma suivi de l'homophagie. Et le point culminant de cette communion mystique, c'est manger les chairs crues de l'animal. C'est ça l'orgie dionysiaque. Hein, et ce sont les femmes, hein, qui faisaient ça sous l'Antiquité. Donc l'animal dont on dévore les lambeaux sanglants n'est autre que Dionysos. Vous l'aurez compris. Hein, c'est comme la grappe de raisin, si vous voulez. C'est comme le vin que l'on tire de la grappe de raisin. Le pressoir mystique, la passion de la grappe de raisin. Ben là, c'est exactement pareil, bien sûr. Hein. Mais là, bon, c'est vraiment donc encore plus proche, bien sûr, du mythe de Dionysos. Donc l'animal, effectivement, est une image de Dionysos. Et c'est pourquoi on peut parler d'Eucharistie. Il n'y a pas de raison de ne pas parler d'Eucharistie à propos de ce rituel. Hein. Après tout, le mot est grec, donc prenez-le dans le plein sens du terme. Ça veut dire une action de grâce, si bien que quand les femmes grecques pratiquaient l'homophagie, donc dévorer les lambeaux sanglants de l'animal qu'elles avaient chassé, elles communiaient dans une véritable Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce. Si les orphiques refusent le sacrifice animal et pratiquent, on l'a compris, un strict végétarisme, en dehors de la fève, l'interdit de la fève, mais ça on en parlera plus tard dans le programme. Bon, les dionysiaques, eux, rompent aussi avec le sacrifice traditionnel, celui qui était pratiqué donc dans les cités grecques de l'Antiquité, celui qui était le fondement de la piété civique, je vous l'ai dit. Donc on sacrifie l'animal sur un autel et on va manger ses chairs, mais cuites. Les chairs sont cuites, bien sûr. Les Grecs mangent les chairs cuites de l'animal. Bon, mais pas dans le cadre des Dionysies, si vous voulez. Et les Dionysiaques, ainsi, rompent avec le sacrifice traditionnel pratiqué dans la cité, ils le rompent en pratiquant l'homophagie, c'est-à-dire manger de la chair crue, et ainsi les deux extrêmes finissent par se rejoindre. Comprenez-le bien, dans l'orphisme, on s'est évadé vers le divin en refusant catégoriquement de manger la chair de l'animal, qu'elle soit crue ou cuite, et dans le dionysisme, on s'évade vers la bête. On redevient une sorte d'animal. C'est l'animal, a priori, qui mange les chairs crues et qui échappe à la culture. Le cru et le cuit, en quelque sorte. Hein. Alors bon, donc ainsi, effectivement, on a deux façons très différentes. Donc, en Grèce, de rompre avec la piété civique. Hein. Mais l'une était plus condamnée que l'autre. C'était les orphiques qui étaient condamnés. Donc les fêtes consacrées à Dionysos ne l'étaient pas. Alors les Aztèques, eux, sont beaucoup plus clairs. Ils sont beaucoup plus clairs dans le sens où, au moins, eux, ils pratiquent le sacrifice humain. Là, au moins, c'est clair, quoi. Donc, bon, ben oui, parce que, vous voyez, on tourne toujours autour du symbole. Hein, donc, la divinité sacrifiée, bon, la divinité sacrifiée, soit, mais tout ça, c'est pas concret. Hein. Bon, alors là, voilà, là, au moins, ça va être concret, là, avec les Aztèques. Donc, ils pratiquent le sacrifice humain. le sacrifice humain ou animal d'ailleurs, hein, qui repose sur le principe fondamental de l'identification du sacrifié et du sacrifiant. Un point qui est fondamental, parce que bien sûr quand on dit ça, identification du sacrifié et du sacrifiant, on a toujours en tête le rituel de l'Eucharistie, tel que les chrétiens le pratiquent par exemple, hein, et quand ils s'apprêtent à prendre l'hostie. Bon, il y aura identification, bien sûr, du Christ ressuscité et du chrétien qui communie, justement. Le sacrifiant chez les Aztèques, c'est par exemple le guerrier qui a fait un ou des prisonniers. C'est encore le riche marchand qui offre des esclaves. C'est aussi le père qui, pour guérir d'une grave maladie, il est affecté d'une grave maladie, va faire immoler un fils. Bon, c'est ça le sacrifiant. Le sacrifiant traite sa victime comme un parents proches, prenons l'exemple du guerrier aztèque qui capture un animal sur le champ de bataille. Aussitôt capturé, le guerrier aztèque l'appelle « mon fils bien-aimé » et le captif doit répondre « voici mon père chéri ». Le captif est accueilli dans la cité. Donc le sacrifié ou le futur sacrifié si vous préférez, le captif quoi, il est accueilli dans la cité, il devient par conséquent membre en quelque sorte de la cité, pas pour longtemps puisqu'il sera sacrifié, mais enfin il est membre quand même de la cité. Et on s'efforce à partir de là de rendre la victime plus proche encore du sacrifiant. Le sacrifié et le fils du sacrifiant, il faut que le lien se fasse entre les deux. Mieux, ce dernier, le sacrifiant, est assimilé totalement à la victime. En effet, le sacrifiant sera censé mourir symboliquement à travers la victime. Il s'assurera ainsi un au-delà heureux après la mort. Sacrifier un individu, c'est en fait s'assimiler à la victime sacrificielle et espérer bien sûr un au-delà heureux, mais par le biais de la victime sacrificielle. Hein. Bon. Donc c'est un double, hein. La victime sacrificielle c'est un double du sacrifiant. Et cette assimilation, elle trouve son expression la plus forte dans le banquet cannibale. On y revient au banquet. Hein. Le banquet cannibale, c'était ce qui clôturait la fête. La fête, c'est-à-dire là vous avez une fête, hein, qui se déroule au Templo Mayor à Mexico Tenochtitlan, du temps des Aztèques, et effectivement on sacrifie, le sacrifice est sanglant, on arrache le cœur, enfin on voit très bien ici sur l'image la pratique du sacrifice humain. Oui, mais ça se termine par un banquet. Ah oui, donc c'est toujours pareil, le banquet, hein, donc les commensaux qui vont bien sûr s'identifier du même coup aux divinités, le banquet cannibale hein, qui va clore la fête. Hein. Cependant, on remarquera une chose, que le sacrifiant, et vous le comprendrez, ne pourra pas manger quoi que ce soit de la victime sacrifiée, parce que elle est sa propre chair. Les autres, oui, pourront manger, mais pas lui, hein, donc, puisque symboliquement, il s'assimile à la victime sacrificielle, il ne pourra pas manger de sa propre chair. Hein. Alors oui, le banquet cannibale, le rituel anthropophage, l'anthropophagie, si vous voulez, hein, donc c'est effectivement tout à fait caractéristique, semble-t-il. Alors ça a été très discuté, hein, tout ça, il faudrait rentrer dans les détails, c'est-à-dire les spécialistes qui sont pour, les spécialistes qui sont contre, mais enfin quand même, hein, il semble bien, c'était peut-être pas systématique, mais enfin il semble bien que les Aztèques et d'autres civilisations précolombiennes aient pratiqué le repas anthropophage, le banquet cannibale. Bon. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, que l'humanité se diviserait en deux catégories. Hein, et on va le citer. Voici ce qu'il dit, Lévi-Strauss. Très très intéressant ce qu'il dit, enfin comme toujours. Hein. Il dit, il y a des sociétés qui voient dans l'absorption de certains individus, détenteurs de forces redoutables, le seul moyen de neutraliser celles-ci et de les mettre à leur profit. Et celles qui, comme la nôtre, on choisit la solution inverse, consistant à expulser ces êtres redoutables hors du corps social en les tenant temporairement ou définitivement isolés. À vous de choisir. Ou vous les mangez. Donc, et ainsi, effectivement, vous les neutralisez mieux. C'est beaucoup plus intéressant finalement parce que vous mettez à profit la force redoutable hein, de l'individu que vous voulez rejeter, mais vous le rejetez par l'intérieur, c'est-à-dire en le mangeant, c'est peut-être mieux que d'expulser hors de la cité, bien sûr, celui que l'on redoute, hein, bon, qui risque de revenir. Si vous le mangez, il ne reviendra pas, hein, donc a priori. Bon. Et donc ainsi, donc Lévi-Strauss dit, les uns, donc les premiers, seraient donc anthropophages, les autres, c'est-à-dire les deuxièmes, anthropèmes, dit-il, hein, anthropèmes, du grec hémein, c'est-à-dire vomir, hein, soit vous ingérez, soit vous rejetez. Hein, donc voilà ce que dit effectivement Lévi-Strauss. Hein. Et il le dit pour l'humanité, hein, donc se diviserait comme ça en deux catégories. Les uns seraient donc anthropophages, les autres anthropèmes. Étudiant le cannibalisme des peuples primitifs, Freud, dans Totem et Tabou, qu'il a publié en 1912, expliquait ceci, je le cite, qu'en ingérant les parties du corps d'une personne dans l'acte de dévoration, on s'approprie aussi les propriétés qui ont appartenu à cette personne. Ce qu'il dira plus tard Lévi-Strauss. Hein. En reprenant les idées de Robertson Smith sur la fonction du repas sacrificiel, hein, comme étant le ciment de l'unité du groupe. Hein. Ça, c'était l'idée de Robertson Smith, le repas sacrificiel, le banquet, c'est donc le ciment de l'unité du groupe. Bon. Freud, qui reprend ses idées, soutient ceci, je le cite, qu'un jour, les frères se rassemblèrent tuèrent et dévorèrent le père, mettant ainsi fin à la horde primitive. Dans l'acte de dévoration, ils accomplirent l'identification avec lui, chacun s'appropriant une partie de sa force. Et là, bien sûr, c'est un mythe qu'il raconte, mais un mythe qui va, bien sûr, être décliné dans quantité de civilisations, quantité de religions. Il semble même que ce soit là un schème, mais alors, vraiment un mythe très, très ancien, hein, donc très, enfin très ancien, le mot est très faible, hein, ancien, il faudrait trouver un autre mot, en fait. Hein, c'est très primordial, en fait, hein, ou, je ne vais pas dire primitif, ça collerait pas, mais enfin, voilà, donc un mythe primordial, finalement, hein, donc le mythe qui consiste à dévorer le père, hein, à s'approprier, hein, donc ce père, à s'identifier avec lui, et donc Freud dit que chacun ainsi s'approprie une partie de sa force. Hein. Voilà, alors on va peut-être parler de notre sujet quand même, hein, parce qu'on n'a pas vraiment parlé du sang du sacrifice, donc on va effectivement plutôt s'orienter maintenant vers le sang du sacrifice. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? À Rome, les libations offertes pour apaiser les morts se composent de sang, de lait et de vin. En Grèce antique, comme le montre très bien l'épisode raconté par Homère et illustré ici, Ulysse sacrifiant un bélier pour invoquer l'âme de Tirésias. Bon. En Grèce antique, en Afrique, en Chine, on croit que les morts boivent le sang. À partir de là, bon, vous avez quantité bien sûr de contes ou de légendes, hein, qui passent pourquoi pas par les vampires. Enfin, donc il y a une relation très étroite entre les morts qu'il faut apaiser, ou les morts tout court, et le sang. Prenons l'exemple africain, les fétiches des mandingues, hein, c'est de l'Afrique ça, hein, les mandingues. Les fétiches des mandingues sont faits d'un placenta d'animal, mais sont faits aussi de terre, de fer, ou parfois même d'or, de bois. Quoi qu'il en soit, quand les mandingues ont fabriqué un fétiche, ces fétiches, à partir de là, sont alimentés par des sacrifices de sang. Et Youssouf Tata Cissé, qui est un auteur africain, qui est un spécialiste de la question, explique que les fétiches des mandingues sont alimentés par des sacrifices de sang, exactement comme les batteries ont une force électrique qu'on peut recharger. Et à partir de là, effectivement, on peut dire que le fétiche est chargé ou rechargé, hein, ou chargé tout court, d'une force qui est une force occulte qui servira dans le cadre du vaudou, de la magie, quelle que soit cette magie, donc, mais c'est plutôt une magie analogique, une magie qui est plutôt noire quand même. Hein, bon. Donc le sang est parfois l'aliment des hommes, plus souvent c'est celui des dieux. Hein, dans les mythes, les dieux se nourrissent de sang. Dans beaucoup de civilisations, il est admis que la consommation de sang animal, parfois même de sang humain dans les cas d'anthropophagie, est source de vigueur. C'est source de force. Le cœur, le foie, les abats qui sont gorgés de sang sont alors des mets de choix. On aime le boudin ou on n'aime pas le boudin, hein, pour faire simple, hein, si vous voulez. Bon. Islam et judaïsme l'interdisent, hein, l'interdisent rigoureusement. Et d'ailleurs, on va citer le Lévitique chapitre 17, verset 10, qui dit « Je me tournerai contre celui-là qui aura mangé ce sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. » C'est ce que dit Yahvé dans le Lévitique, chapitre 17, verset 10. Le Coran est tout aussi explicite en mettant le sang au nombre des choses interdites, au même titre que le porc. Coran, sourate 5, verset 3. Hein, mais on a, vous le savez, donc un sujet là-dessus, ça sera le dernier sujet du cycle, hein, de cette année. D'où l'obligation d'égorger les animaux avant de les consommer, à la fois dans l'islam, mais aussi dans le judaïsme. Pourquoi ? Parce que Dieu est le maître de la vie, et le sang qui en est le siège, le sang c'est le siège de la vie, est strictement réservé à Dieu. Donc il ne peut être versé, ce sang, que rituellement et offert en sacrifice à la divinité. Donc on va effectivement égorger l'animal avant de consommer ses chairs. Hein. Donc le sang lui revient à la divinité. Hein. Les sacrifices sanglants sont universels, hein, universels, très très anciens, et il semble d'ailleurs que les dalles de certains dolmens aient été creusées de rigoles pour le recueillir, ce sang, justement. On ne peut pas le prouver, ou c'est très difficile, mais c'est une proposition qui a été faite quand même. En Grèce antique, les sanctuaires des dieux ruissellent de sang, qui le dit, c'est Euripide, cette fois-ci dans les Troyennes. Vous voyez qu'il n'y a pas que les Aztèques, hein, qui font ruisseler de sang les sanctuaires. Mais le sang, bien sûr, en Grèce antique, c'est le sang des animaux. Chez les Aztèques, c'est le sang humain qui est largement répandu pour tenter d'étancher la soif du dieu soleil. Le dieu soleil, effectivement, doit être nourri du sang des victimes sacrificielles. Plus il y en a, et mieux se porte ce soleil. Bon. Alors, dans les pays musulmans, la fête du mouton donne lieu encore à des sacrifices d'animaux. Le judaïsme y a renoncé dans la mesure où il ne pouvait être accompli que dans le temple. Oui, mais voilà, le temple, il a été détruit il y a 2000 ans, à peu près, hein, un petit peu moins de 2000 ans, enfin 2000 ans, quoi. Le bouddhisme semble y répugner. Mais remarquez une chose, que dans l'hindouisme, et c'est vrai que l'hindouisme n'est pas le bouddhisme, dans l'hindouisme, l'acte par excellence c'est le karman, et le karman c'est le rituel sacrificiel, et le rituel sacrificiel c'est le rituel d'un petit animal, ça peut être un poulet par exemple, mais ça peut être une libation de sang ou de lait, par exemple, ce qui revient à peu près au même. Hein. Bon. Le christianisme, lui, a substitué à ces sacrifices la cérémonie de l'Eucharistie, c'est-à-dire le Christ, agneau de Dieu, se sacrifie pour abolir le sacrifice sanglant. Le sacrifice sanglant est aboli donc par le Christ, agneau de Dieu, donc rédempteur, celui qui efface le péché, etc., etc. Et donc on pratique l'Eucharistie pour cela dure finalement en quelque sorte. Hein. Oui, mais remarquez une chose, Pilate qui refuse de porter la responsabilité de la mort du Christ, Pilate dit aux Juifs, il dit ceci, « Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Ça, vous le trouvez dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 24 à 25. Aussitôt, on va ajouter, c'est une invention de l'auteur de l'Évangile, de Matthieu. Il est évident que Pilate n'a jamais dit ça, et surtout, surtout, il est évident que le peuple juif n'a jamais répondu à Pilate que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ça, c'est une invention, ça, de l'auteur de l'évangile de Matthieu. Mais une terrible invention, hein, puisque l'invention en question aura des conséquences funestes. Les Juifs sont donc déicides, puisqu'ils ont dit que son sang au Christ soit sur nous et sur nos enfants. Alors, ils sont déicides. Alors, au Moyen-Âge, on les accuse de tous les maux, on les accuse d'empoisonner les puits et les fontaines, et cela conduit plusieurs centaines de Juifs au bûcher. Vous avez l'image ici, elle est terrible. Et ces accusations, d'ailleurs, ne feront que s'accentuer avec l'épidémie de peste noire qui va décimer le continent à partir du milieu du XIVe siècle. Les chrétiens programme donc le sacrifice des Juifs. Il le programme pour calmer la colère de Dieu. La destruction par le feu justifie une intention purificatrice. N'oubliez pas la racine de purificatrice, un mot qui est tout à fait terrible. On se souvient de la racine, donc pur, pur. Pur, c'est le feu, pur, en fait. D'où les mots grecs en pyro. Par exemple, c'est la même racine, et on l'avait vu dans une conférence précédente. Et donc, comprenez bien, livrer les Juifs au bûcher, c'est un acte de foi, auto-da-fé. Alors bon, vous voyez, les parallèles, en fait, sont frappants. Les parallèles qu'on peut faire, c'est frappant. L'acte de sacrifier. L'acte de sacrifier, d'ailleurs, donc on va rappeler l'étymologie latine, ça signifie rendre sacré, sacrifier. Donc rendre sacré, on sacrifie, c'est-à-dire on rend sacré. C'est l'étymologie latine. Et l'acte de sacrifier, ça consiste à tuer de façon rituelle un animal ou encore un être humain qui est offert à une divinité dans l'espoir d'obtenir un bénéfice pour la personne qui va réaliser cet acte sacrificiel. Donc c'est le sacrificateur, bien sûr, ou celui qui offre la victime, c'est le sacrifiant que j'évoquais tout à l'heure. En Mésoamérique, la pratique sacrificielle était étroitement liée à la guerre. Et donc la guerre avait deux objectifs en Mésoamérique. C'était réaliser des conquêtes, soit, mais c'était aussi et surtout obtenir des victimes pour les sacrifier aux dieux, parce que les dieux se nourrissent des sacrifices. Le sacrifice humain, largement pratiqué, en tout cas en Mésoamérique, était là-bas un substitut du sacrifice de soi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à propos du sacrifiant et du sacrifié. Donc par ce rituel, on assimilait les futures victimes du sacrifice à soi, on l'assimilait à soi, ainsi quand on sacrifiait un captif, c'était soi-même que l'on immolait symboliquement. Et alors il y a un mythe qui est là finalement pour le justifier, c'est le mythe de la création de l'homme. En Mésoamérique, donc on va prendre l'exemple des Aztèques. Alors le mythe de la création de l'homme qui explique le sacrifice sanglant, explique ou le justifie. Le mythe est toujours là pour justifier le mythe, ou le mythe est une parole explicative du rite. Le rite, c'est le sacrifice. Voyons le mythe. Que nous dit le mythe? Alors le mythe nous dit Quetzalcoatl, que vous avez ici, le Kukulcan des Mayas. Quetzalcoatl en aztèque, ou en narwhalt, si vous préférez, et Kukulcan chez les Mayas. Alors Quetzalcoatl ramène du monde des morts les ossements d'une précédente génération. En effet, ici, comme ailleurs, dans une autre civilisation, il y a plusieurs âges, et donc plusieurs humanités qui ont vécu à chacune de ces âges. Donc la génération précédente, ou l'âge précédent est fini, donc la génération précédente a disparu. Mais Quetzalcoatl ramène du monde des morts les ossements de la précédente génération. Ils sont moulus, ces os, ils sont moulus par une déesse qui s'appelle Cuilhatzli. Donc elle va les moudre comme s'il s'agissait de grains de maïs. À la base, c'est le maïs. Quetzalcoatl et d'autres divinités à partir de là offrent leur sang tiré de leur pénis ou tiré de leur langue, et le sang est mélangé aux os moulus. Donc on obtient une pâte, et c'est de cette pâte que naissent les hommes, assimilés à des galettes de maïs, en fait, puisque on a moulu ces os comme s'il s'agissait de grains de maïs. Donc si bien qu'on obtient des galettes de maïs, c'est le mythe d'origine ou l'anthropogonie, donc le mythe qui nous raconte la naissance de l'homme. Et les corps humains sont donc, comme cela, consommés par les dieux. Les corps humains, ce sont des galettes de maïs que les dieux mangent au cours des sacrifices. Ah oui, il faut bien qu'ils mangent quand même, ces dieux. Bon, donc ils mangent des galettes de maïs, en fait, les victimes sacrificielles. Et dans cette perspective, vous devez comprendre que la guerre qui était pratiquée d'une façon très intense par les Aztèques notamment, mais pas seulement les Aztèques, la guerre était comparée à une récolte de maïs destinée à alimenter les divinités. Et il s'agit là d'un point extrêmement important pour comprendre la nature des dieux mésoaméricains. Ça, c'est tout à fait important. Ils ont besoin des offrandes sacrificielles des hommes parce que les dieux mésoaméricains sont mortels. Ils sont mortels tout comme leurs créatures. Vous voyez la différence par rapport à la Grèce. En Grèce antique, les dieux sont immortels, mais ne sont pas éternels. On pourrait dire le contraire, des dieux mésoaméricains. Ils sont mortels, mais finalement ils sont immortels parce qu'ils renaîtront selon une temporalité cyclique. Ça reviendra, et ça reviendra encore. Donc au bout d'un âge, ils mourront. Ils mourront parce qu'ils n'auront pas assez de nourriture, mais ils pourront renaître dans un autre âge, si vous voulez. Et c'est pour contribuer à ces renaissances que les dévots aztèques, sacrifient des victimes qui incarnent les dieux. Les victimes sont là pour incarner les dieux. Ils sont leurs représentants, ils sont leurs images sur Terre. Voilà, je joue sur des images ou des civilisations ou des religions qui paraissent très différentes les unes des autres, mais qui dans le fond finalement ne le sont peut-être pas tant que ça. Par exemple, remarquez que verser son propre sang a une connotation positive, enfin positive entre guillemets, positive pour celui qui verse son propre sang, celui qui le fait donc consciemment et volontairement. Alors oui, là on peut le dire, ça a une connotation très positive que vous retrouvez avec les pratiques d'automortification. Les pratiques d'automortification, qui sont des pratiques rituelles, donc religieuses, sont universelles. Toutes les religions les ont pratiquées, et les pratiquent encore pour certaines, à l'occasion d'un deuil, par exemple. Et c'est ainsi que Euripide, encore lui, mais cette fois-ci dans les suppliantes d'Euripide, il écrit « Labourez vos joues, ensanglantez vos ongles blancs, empourprez votre chair, tel est au trépassé l'hommage des vivants. » Et les vivants le faisaient. Les Grecs de l'Antiquité le faisaient. Ils labouraient leurs joues. Ils se faisaient saigner. Automortification, bien sûr. Et ça avait une connotation positive pour ceux qui le faisaient. Et on retrouve des pratiques semblables lors de cérémonies d'initiation chez les aborigènes d'Australie ou dans plusieurs civilisations amérindiennes, c'est-à-dire incision du visage ou du corps, mutilation, flagellation, circoncision, excision, castration, ces blessures volontaires qui versent le sang, prennent des formes extrêmement nombreuses, et par exemple en Europe, au XIIIe et XIVe siècle, et surtout à partir du moment où la peste se déclenche en Europe, alors là on assiste à des cohortes de flagellants. Vous en avez ici des cohortes de flagellants qui se donnent en spectacle un peu partout en Europe. On voit effectivement cela. Hein. Et ça n'a pas disparu à ce propos. Hein. Ça n'a pas disparu. Notamment dans le cadre du christianisme d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, on peut voir des flagellants qui s'infligent des peines sanglantes qui sont tout à fait terribles. Hein. Et donc un peu partout dans le monde, des scènes de mortification comparables sont encore visibles à certaines occasions. Mais bien sûr, c'est encore et toujours aux Aztèques que revient la palme. Les Aztèques, les Mayas aussi, hein, dans le cas de l'automortification, les Mayas suivent de très près les Aztèques, hein, voire même parfois les dépassent, hein, dans ce cadre-là. Alors ce manuscrit, c'est un manuscrit extrêmement célèbre de Bernardino de Sahagún. Pourquoi ? Parce qu'il a été rédigé en langue aztèque. Donc Sahagún, c'est un franciscain. Donc il arrive après Cortés, hein, quelques années après Cortés. Donc au XVIe siècle, là, il a le souci de rédiger en fait une somme d'informations sur les populations locales, et il a le souci de rédiger tout cela en langue aztèque, en langue narouhalte. Hein. Il le fait avec des caractères latins, hein, c'est bien effectivement en narouhalte, comme aujourd'hui, par exemple, hein, quand vous visitez un site au Mexique, vous avez trois panneaux. Vous l'avez en espagnol, vous l'avez en anglais, et vous l'avez écrit en narouhalte. Parce qu'au Mexique, effectivement, le narouhalte est toujours enseigné à l'université. Heureusement, hein, bon, heureusement. Et donc, c'est la langue des Aztèques, le narouhalte. Hein, donc, et plus largement, donc, une langue précolombienne qui vient donc de très très loin. Et Bernardino de Sahagún a souhaité effectivement rédiger là, son codex, en langue aztèque avec des caractères latins. Et là, j'ai choisi la page qui montre des pénitents qui font passer de longues baguettes à travers leurs oreilles ou encore leur langue. Et la sévérité du sacrifice dépendra du nombre de baguettes utilisées successivement. Et dont le sacrifié tient en main un faisceau. Donc là, ici, dans sa main, il a un faisceau de baguettes. Ici, semble-t-il aussi, mais on va s'approcher. Donc comprenez bien, effectivement, qu'il peut tenir dans sa main, disons la main droite là, du personnage qui est en haut, il peut tenir jusqu'à 40 baguettes hein, dans sa main. Hein. Et donc, les unes après les autres, il va les utiliser et les passer dans un orifice qu'il a pratiqué dans sa langue. Donc, bien sûr, la langue saigne beaucoup. Hein, ça peut être aussi l'oreille, ça peut être aussi une autre partie du corps. Mais enfin, là, on voit bien que c'est la langue hein, au milieu. Alors, on voit bien que c'est la langue. Hein. Voilà, il a son faisceau aussi de baguettes dans sa main gauche. Plus il a de baguettes et plus il est méritant. Hein, c'est pour ça que je disais à l'instant, ça a une connotation positive. Positive pour celui qui pratique, hein, bien sûr. Pour les autres, je ne sais pas. Et donc, plus bas, un petit peu plus bas, c'est le troisième personnage qui est complètement en bas. Voilà, en bas ici donc. Donc, le personnage brandit deux épines sanglantes. On les voit, il les tient dans sa main, a priori la main droite. Hein, et il s'apprête à planter ces deux épines qui sont sanguignolantes dans une boule d'herbe qu'il tient dans l'autre main, c'est une boule d'herbe, hein. Et c'est ainsi qu'il exposera les résultats de son supplice à ses concitoyens, donc il montrera effectivement qu'il est un dévot, qu'il est un fidèle, hein. Un dévot, donc il pratique tout ça, qu'il fait tout ça pour sa divinité. Et alors effectivement, les Mayas ne sont pas en reste, hein. Les scènes d'autosacrifice chez les Mayas sont particulièrement relevées. Alors en effet, à l'aide d'un stylet, on peut le faire. Alors là, vous avez une scène qui est tout à fait remarquable, hein, donc j'ai presque envie de dire très belle, en fait, une très belle scène d'autosacrifice. Donc, Yaxchilán, c'est un site qu'on visite, hein, donc on est au Chiapas, dans ce cas. Bon, beaucoup de Selinto, malheureusement, ont été déplacés, se retrouvent au British Museum, mais d'autres aussi se retrouvent au Musée Anthropologique de Mexico, et quelques-uns se trouvent encore sur place, hein, ce qui fait de la visite du site de Yaxchilán une visite très très intéressante. Hein. Donc, à l'aide d'un instillée, le roi oiseau-jaguar de Yakshilan s'apprête à transpercer son pénis alors que son épouse fait passer une cordelette à travers sa langue. Et on s'approche pour voir tous ces détails qui sont croustillants, qui mettent en appétit. Donc alors on commence par ce que vous voulez en fait. Donc à droite, le chef maya, le roi oiseau-jaguar de Yakshilan, c'est une cité maya. Donc il a dans sa main gauche le stylet, il est censé se percer le pénis et son épouse se tient en face et elle, c'est une cordelette qu'elle passe à travers sa langue. Et encore, je vous ai fait grâce de l'autre linteau qui montre la cordelette qui est donc marquée d'épines, ponctuée d'épines. Et c'est réel, donc elle le faisait réellement. Donc là, ici, le but, c'est faire saigner le saignement. C'est le saignement. Le saignement peut être donc obtenu par divers instruments. C'est l'aiguillon de raie, par exemple, où ce sont des lancettes d'obsidienne, ce sont les outils les plus courants, et donc ça se fait sur divers endroits du corps, les oreilles, les membres, la langue, le pénis, et avec un degré variable de souffrance, et bien sûr ce que l'on recherche, c'est la souffrance. C'est pour ça que parfois vous trouvez des cordelettes qui sont comme ça marquées d'épines. Alors pourquoi un tel rituel? Pourquoi un tel rituel? L'autosacrifice, puisque c'est de ça que l'on parle, l'autosacrifice a des fonctions et des sens multiples. Purification, par exemple, on veut se purifier après un péché commis, une faute qui a été commise. Punition, on veut se punir. Action de grâce, j'en parlais tout à l'heure, autodafé, quoi. Rachat de la dette contractée dès la naissance, parce que dans ces mythes mayas ou même aztèques, l'homme, à l'origine, a commis un péché. Donc il vit avec ce péché, pour racheter cette dette contractée dès sa naissance, il pratique l'autosacrifice. Et ainsi de suite. Il y a tout un tas de raisons, en fait. Ça peut être aussi une sorte d'investissement. On investit dans le futur, si vous voulez. On investit pour l'au-delà. C'est une sorte de paiement anticipé. Ainsi, effectivement, on prépare sa survie dans l'au-delà, on prépare son futur, tout simplement. C'est-à-dire que si on veut une vie ici-bas qui soit extrêmement agréable, alors effectivement, on va pratiquer ce genre d'autosacrifice, on investit, c'est un paiement anticipé, etc. Et le sacrifice attire l'attention des dieux. Dès qu'il y a le sang qui coule, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai dite à propos du sang du sacrifice, c'est les dieux qui se nourrissent de sang. Les dieux aiment bien le sang, tous, sans exception. Donc effectivement, le sacrifice attire l'attention des dieux et les oblige par conséquent à accorder ce qu'on leur demande. Donc on fait couler son propre sang, ce qui obligera la divinité à accepter ce que l'on veut. Bon, c'est des barbares ces gens. C'est des barbares, ces gens. Faut pas y aller au Mexique, voilà, n'y allez pas. Donc au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras, au Yucatan, il faut pas y aller. Donc là, vous avez des cités mayas, des cités donc précolombiennes. N'y allez pas, c'était des barbares, ces gens. Surtout pas. C'était des barbares. Oui, mais c'est curieux ce parallèle, et d'ailleurs, ça n'a pas échappé du tout aux précolombiens, quand ils ont vu arriver Cortés et les franciscains et les dominicains, quand ils ont vu le christianisme, quand ils ont appris ce qu'était le christianisme, ils se sont sentis tout à fait à l'aise. Les précolombiens n'ont jamais rejeté le christianisme. Par contre, ils voulaient continuer à conserver leur religion. Donc ils voulaient en fait une forme de syncrétisme, que leur religion ou que le christianisme s'adapte à leur religion, ou inversement même. Mais bien sûr, du côté des inquisiteurs, c'était absolument impensable. Et remarquez une chose, par exemple, les paléochrétiens provoquaient les Romains. Ils provoquaient volontairement les Romains pour connaître le martyre. Hein, et le martyr sanglant, le martyr le plus épouvantable, le martyr sanglant, c'est quoi? C'est le gage du salut. C'est la raison pour laquelle, dans nos églises, il y a quantité de tableaux qui montrent ce genre de choses, c'est-à-dire des martyrs sanglants. C'est un exemple. On donne comme exemple aux fidèles chrétiens, donc le martyr des saints, le martyr des paléo-chrétiens, parce qu'ils ont gagné comme ça le salut. Et là, Poussin, parce que c'est Poussin qui a peint ce tableau, Poussin, effectivement, utilise des procédés caravagesques, c'est-à-dire nous présente comme cela au premier plan un cadavre éviscéré. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je ne peux pas en dire davantage, hein. Je suis absolument désolé, hein. Parce qu'il a, il a bien soigné le détail, hein. Donc le ventre qui est bien taillé, donc les intestins qui sont tirés, vous voyez effectivement jusqu'où ça va, donc d'ailleurs c'est presque un petit peu donc grotesque, comme si Poussin s'amusait un petit peu, Nicolas Poussin, c'est le grand peintre, hein, Nicolas Poussin s'amusait un petit peu parce qu'il aurait pu, je sais pas, donc mettre en place une petite poulie, hein, quelque chose de petit. Non, c'est une très grosse poulie, de l'air de dire, oh là là, alors celui-ci, là, Erasme, il doit avoir 10 à 12 mètres d'intestin, donc il faut une grosse poulie pour enrouler dans tous ses intestins. Bon, alors c'est un peu ça. Hein. Voilà, bon, mais ça, ce n'est qu'un exemple. Tous les saints, du christianisme, sont morts dans des conditions qui sont absolument épouvantables, où le sang a coulé. Effusion sanglante, hein. Effusion sanglante, don de soi. C'est ce que fait Erasme, hein, ici. Hein. Ce sont deux thèmes indissolubles du christianisme et largement diffusés à ce propos par l'ordre franciscain à partir du XIIIe siècle. Sur quel exemple ou sur quel modèle? C'est bien sûr Saint François d'Assise. Saint François d'Assise a vécu les stigmates du Christ. Il a reçu, mais enfin, je dis vécu dans le sens où c'est une passion carrément. Donc la stigmatisation de Saint François inaugure une véritable iconographie du sang. Sur un plan strictement iconographique dans l'histoire de l'art, on constate qu'en Europe, à partir du XIIIe siècle, il y a effectivement une iconographie du sang qui se met en place et qui est portée par cet exemple-là, donc la stigmatisation de Saint François. Alors dans les origines de la culture, René Girard, qu'on ne lit pas assez, hein, manifestement, donc on se pose dans notre actualité des questions auxquelles Girard a répondu il y a de ça déjà 20 ou 30 ans, enfin 30 ans, au moins 30 ans, bon, sinon plus. Hein. Et là on va citer les origines de la culture, hein, de René Girard, hein, et il écrit ceci. J'aimerais écrire une interprétation chrétienne de l'histoire du sacrifice. Je montrerai que les religions archaïques ont véritablement éduqué l'humanité, qu'elles l'ont sortie de la violence archaïque. Puis, Dieu est devenu une victime afin de libérer l'homme de l'illusion d'un Dieu violent, illusion qui doit être abolie en faveur de la connaissance que le Christ reçoit de son Père. On peut considérer les religions archaïques comme le premier stade de la révélation progressive qui culmine avec le Christ. Ainsi, quand certains disent que l'Eucharistie est enracinée dans le cannibalisme archaïque, il ne faut pas le nier, dit René Girard, mais l'affirmer. Au contraire, la véritable histoire de l'humanité est une histoire religieuse qui remonte au cannibalisme primitif. Le cannibalisme primitif est la religion et l'Eucharistie récapitule cette histoire de l'alpha à l'oméga. Tout cela est primordial et une fois qu'on l'a compris, il faut nécessairement admettre que l'histoire de l'homme inclut ce début meurtrier de points Caïn et Abel. La violence, qui était le thème, bien sûr, fondamental de René Girard. La violence, hein, et si j'ai parlé d'actualité, c'est que nos sociétés sont violentes, hein, notre actualité est violente. Hein. Mais là, vous avez dans les textes de René Girard des réponses à cela. Hein. Alors, on va rebondir sur la violence, hein, à propos de la violence. Hein. Dans toutes les civilisations, on observe une fascination inquiète envers le corps et ses débordements. Les débordements en question, ce sont par exemple les excrétions, objet de tabou, hein, la sueur, le sperme, le pu, les larmes. Hein, c'est considéré comme autant de manifestations de l'hubris, auraient dit les Grecs, hein, la démesure, hein, qu'implique la condition d'être vivant, d'être animal humain. Car en effet, tous ces débordements, excrétions, sueur, sperme, pu, larmes et sang, bien sûr, tout cela nous rappelle ce que nous sommes, hein, animal humain. Et justement, l'épanchement du sang hors du corps féminin lors de la menstruation, ou alors pendant l'accouchement, hein, donc l'épanchement du sang lors de l'accouchement, est sans doute le meilleur exemple, et ça a provoqué et provoque encore une terreur instinctive, hein. C'est pour ça que je vous montre cette image, hein. Georges Bataille l'a très bien expliqué dans un texte qui s'appelle L'érotisme, où il dit ceci: d'autres interdits associés à la sexualité ne nous paraissent pas moins que l'inceste, réductible à l'horreur informe de la violence, tel l'interdit du sang menstruel et celui du sang de l'accouchement. Ces liquides sont tenus pour les manifestations de la violence interne. De lui-même, le sang est signe de violence, dit Georges Bataille dans L'érotisme. Hein. La violence interne. Et la sculpture que vous avez ici, hein, la sculpture est aztèque, hein, elle illustre justement ce souci chez les Aztèques de se libérer du poids des nécessités biologiques, hein, ce qui fait effectivement que nous sommes animal humain. Hein, se libérer, hein, de cela. Pourquoi ? Pour atteindre à une spiritualité plus élevée. Et ça, j'insiste beaucoup, parce que après ce qu'on a dit sur les Aztèques tout à l'heure ou sur les Mayas, il ne faudrait pas se tromper, hein, quand même. Les Aztèques et les Mayas visaient une spiritualité plus élevée ou très élevée par le moyen d'exercices divers, à commencer l'auto-mortification. Bon. Et donc se libérer des nécessités biologiques, hein, d'où cette image d'ailleurs, hein, qui est très forte. Hein. Mais on peut dire des choses comparables. Pour revenir à ce propos sur la violence interne, comme le disait Georges Bataille, et sur le sang menstruel, on peut dire la même chose chez les Dogons. Hein, chez les Dogons en Afrique, la seule vue de ce sang menstruel ou du sang de l'accouchement était pensée comme mortelle, si vous voulez. Hein. La vue provoque la mort aussitôt, hein, la vue de ce sang-là. Le feu et l'eau sont même souillés à son contact. Au contact du sang menstruel ou du sang de l'accouchement. Les hommes perdent leur force virile, les champs deviennent stériles, la végétation est brûlée, le lait tourne, les miroirs deviennent opaques, et ainsi de suite. Et les croyances de ce genre sont innombrables. On peut se reporter par exemple à l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Donc Pline l'Ancien donne la mesure de cela. Hein, c'est dans le livre 7, j'ai pas le temps de le développer, mais enfin bon, vous avez la référence, Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre 7, où là, il donne des exemples innombrables de ces croyances-là. C'est pour dire, c'est pas propre aux Dogons, hein, c'est pas parce que nous sommes en Afrique que tout d'un coup on a ces croyances-là, non, c'est aussi, bien sûr, chez nous, tout cela, bon. Et il y a un héritage, il y a des survivances, en tout cas. Pendant la période de ces règles, et après l'accouchement, pour une durée variable, la femme est souvent considérée comme impure. Par exemple, c'est ce que dit le Lévitique. Donc c'est un texte de l'Ancien Testament, chapitre 12, verset 24. Toute relation sexuelle lui est interdite, elle ne peut pas préparer les repas, elle ne peut pas participer aux activités publiques, elle subit une sorte de quarantaine, soit qu'elle doive rester cloîtrée chez elle, soit qu'elle est conduite dans une maison des femmes, ça, ça existe, maison des femmes à l'écart du village, notamment en Afrique, ça peut exister effectivement, et avant de pouvoir retrouver sa place dans la société, il lui faut procéder à des rites de purification, ablution le plus souvent, hein. Bon, donc un bain, si vous voulez, hein. Et donc là, vous avez effectivement quelque chose qui était à signaler à propos du sang, donc on ne pouvait pas ne pas l'évoquer, puisque donc il y a un interdit autour de ce sang-là, et donc justement, on va bientôt aborder donc cette question des interdits de la fève, interdits du porc, par exemple. Donc ce sujet d'aujourd'hui, j'espère, aura préparé les sujets que l'on verra prochainement dans ce cycle. Le prochain sera plus tranquille, hein. Le gui, on parlera du gui. On parlera du gui. Voilà, oui, le gui, donc ça sera beaucoup plus tranquille avec le gui. Voilà. Donc oui, je crois que c'est tout, je vérifie, j'ai terminé pour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, sur ce sujet, quoique ça ne peut pas être exhaustif, hein, bien sûr, quand on aborde le sang, c'est très dense, c'est très riche. Non, mais il y a clairement beaucoup moins d'interdits à propos du sang. Donc visuellement, pour prendre juste l'exemple des publicités, les publicités ou l'imagerie qui nous entoure, qu'elle soit télévisuelle, qu'elle soit cinématographique, toute cette imagerie qui nous entoure intègre parfaitement dans nos cultures, notre société, voire notre quotidien, le sang. Tout à fait. Oui, exactement. Exactement, exactement. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Tout ce que j'ai évoqué là aujourd'hui correspond bien à des sociétés qui étaient patriarcales, patrilinéaires. Elles le sont toujours aujourd'hui, hein, ces sociétés, hein, patriarcales, patrilinéaires. Mais comme vous le dites très très bien, donc ça bouge tout ça.